Aujourd'hui et lundi prochain, nous étudierons la nature de la foi dans ses rapports avec les œuvres. Ce sujet évoque déjà dans nos esprits un climat de controverse vigoureuse. La plupart d'entre nous se souviendra que c'est précisément ce sujet qui a déclenché la réforme en Allemagne au XVIe siècle. Les théologiens du Moyen Âge avaient beaucoup insisté sur l'importance des œuvres de mérite dans la vie de l'individu. Plus ses œuvres étaient importantes en qualité et en quantité, plus vite il sortirait du purgatoire. Aussi multipliait-on messes, rosaires, pèlerinages et cérémonies pour augmenter le capital d'œuvres de mérite. En outre, tandis que ses œuvres pouvaient servir à l'individu même, elles pouvaient être aussi, en quelque sorte, versées au compte de personnes déjà décédées. C'est à cette époque que Martin Luther afficha ses 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg pour protester contre la doctrine du salut par les œuvres de mérite. Il avait déduit, par ses études quasi clandestines des Écritures, que le salut ne pouvait s'obtenir que par la foi seule. Ce fut l'origine de la doctrine de la justification par la foi seule. Rappelons que dans le langage de la Bible, être justifié, c'est être rendu juste devant Dieu. C'est donc être pardonné et sauvé. Jean Calvin, vers la même époque, à un autre sens, alla encore plus loin avec sa doctrine de prédestination inconditionnelle. Selon cette doctrine, Dieu aurait déjà décidé, depuis la fondation du monde, du sort final de chaque créature par un décret implacable, un verdict définitif. Selon cette doctrine, le salut est totalement indépendant de la volonté ou du désir de l'homme. Il a été justement diagnostiqué que cette doctrine constituait avant tout une réaction violente et à peine mesurée contre la doctrine des œuvres de mérite. Cette réaction a versé dans de regrettables extrémismes. On a bien essayé de les atténuer depuis, mais ils demeurent néanmoins encore profondément ancrés en de nombreuses personnes. Il nous fallait jeter un coup d'œil en arrière pour comprendre l'importance que revêt le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Qu'est-ce donc que la foi, dans son contexte strictement biblique? Quelle est la place des œuvres dans le cadre de cette foi? Peut-on parler des œuvres de mérite? Lorsqu'on pose ces questions à brûle-pourpoint, au beau milieu de notre XXe siècle, on s'étonne d'entendre des définitions aussi vagues que variées, voire même fantaisistes. Pour certains, avoir la foi, c'est aller à l'église. Pour d'autres, c'est vivre honnêtement, selon sa conscience. Pour d'autres encore, c'est prier souvent, c'est croire en Dieu, c'est suivre un code de vie morale, etc. Or, si ces définitions renferment dans leur fond quelques germes de vérité, elles sont incomplètes et elles frappent par leur résonance vague et incertaine. Elles trahissent le fait qu'on s'en est fort peu soucié. Mais interrogeons la parole de Dieu. La Bible nous dit en effet ce qu'est la foi et ce qu'elle n'est pas. La foi, telle qu'on la définit parfois, ne se limite pas à une acceptation purement intellectuelle de l'existence de Dieu. Un seul passage suffira à nous le prouver. L'épître de Jacques, au chapitre 2 et au verset 19, nous dit: Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. La Bible dit expressément que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il est évident que cette foi que Dieu exige des hommes doit dépasser les étroites limites d'un assentiment intellectuel. Tandis que la foi n'est pas cela, elle n'est pas non plus un don miraculeux. Certains se sont imaginés que la foi est un don que Dieu plante miraculeusement et presque instantanément dans le cœur des hommes, comme à l'improviste. La Bible précise la manière dont naît la foi. Dans le chapitre 10 de l'Épître aux Romains et au verset 17, l'apôtre Paul insiste sur l'importance de la prédication de la parole de Dieu. Il faut envoyer des évangélistes, car comment les païens entendront-ils parler du Seigneur s'il n'y a personne qui prêche? Et il ajoute: Ainsi, la foi naît de la prédication, et la parole de Christ est l'instrument de cette prédication. C'est bien là aussi l'objet de la prière du Christ, telle qu'elle nous est rapportée dans toute sa ferveur dans l'évangile de Jean, au chapitre 17. C'est là que Jésus dit à son Père: Ce n'est pas pour mes disciples seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Dans un sens strict, la foi est bien un don de Dieu, mais le pain aussi est un don de Dieu. Il faut encore en manger sous peine de mourir de faim, et cela implique une décision, un effort de volonté libre. L'air aussi est un don de Dieu, encore faut-il en respirer. Jésus-Christ est la personne de la foi. On peut dire qu'il est la foi personnifiée. Encore faut-il accepter ce qu'il dit et ce qu'il est. En un sens, avoir la foi, c'est avoir été vaincu et conquis par le Christ. C'est mettre son joug et recevoir ses instructions. C'est répondre à son appel. « Venez à moi, dira-t-il, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux. » Il est intéressant de noter que dans cette même épître aux Romains, l'apôtre Paul parle d'une obéissance à la foi. Voilà une expression pour le moins surprenante, mais dont le sens s'impose à notre esprit après réflexion. Paul précise en effet que sa mission est d'amener tous les païens à l'obéissance de la foi par la prédication de l'Évangile. Cet aspect de la foi nous permet soudain d'en saisir la signification profonde. La foi chrétienne est une foi obéissante, c'est-à-dire qu'elle consent joyeusement à se plier aux exigences d'un commandement. Le célébré chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux en est d'ailleurs une parfaite illustration. C'est là que nous trouvons une longue liste des héros de la foi, qui ont su, parce qu'ils ont voulu, exprimer leur foi dans l'obéissance. C'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'Enoch marcha avec Dieu. C'est par la foi que Noé construisit une arche. Dans chaque cas, la foi est une démonstration. Elle est la preuve d'un cœur soumis à la volonté divine. C'est ainsi que nous devons comprendre cette expression, l'obéissance de la foi. La Bible parle aussi d'une foi morte. Qu'est-ce qu'une foi morte? C'est une foi qui se contente de parler au lieu de vivre. C'est une foi qui, au lieu d'être, ne fait que paraître. C'est une foi qui réside dans les cordes vocales et non dans le cœur. Elle ne s'exprime pas dans l'obéissance. Jacques écrira, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? » De quel genre d'œuvres s'agit-il? Jacques le précise, « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. » Dans ces passages, nous pouvons déjà déduire que la foi ne mérite ce nom que lorsqu'elle s'exprime dans l'obéissance au commandement de Dieu. C'est ce que la Bible appelle les œuvres de la foi. Gardons-nous cependant de confondre les œuvres naturelles de la foi et les œuvres de mérite. Certains hommes en effet tiennent une comptabilité de leurs bonnes œuvres, qu'ils additionnent en entretenant l'illusion qu'avec un tel capital de bonnes actions ou d'abstinence, l'entrée au ciel leur sera accordée comme un dû. C'est le raisonnement classique de celui qui se dit « je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, etc. » Cette attitude est désastreuse pour l'âme, car elle équivaut à rejeter le sacrifice du Christ. « Seigneur, je sais que tu es mort sur une croix, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour les grands pécheurs. Quant à moi, je n'ai pas besoin de ta croix. Je n'ai pas besoin de ta couronne, ni de ton sang, ni de tes souffrances. Je sais bien faire ma route tout seul. » C'est contre cette attitude que se lève les apôtres et la Bible tout entière. Je vous invite à lire avec moi quelques passages déterminants sur cette question. D'abord, à un passage tiré de l'épître à Tite. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. De même, aux Éphésiens, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se vante. Nous sommes donc sauvés par la grâce de Dieu, et nous pouvons accepter cette grâce par la foi active. Légalement, nous sommes coupables. Nous avons transgressé la loi. Nous devons être punis. Le juge, cependant, nous fait grâce. Il exerce sa miséricorde. Il nous accorde une chance nouvelle. Le chrétien est celui qui a accepté cette grâce. Le rebelle est celui qui s'en détourne. C'est précisément l'idée que l'apôtre Paul exprimera magnifiquement dans sa lettre aux Romains, au chapitre 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais quelle est donc la valeur ou le rôle des œuvres dans la vie d'un chrétien? Jésus répond à cette question dans une de ses paraboles, telle qu'elle nous est rapportée au chapitre 17 de l'évangile de Luc. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Cette étude n'est pas terminée. Nous la poursuivrons lundi prochain à la même heure où nous aborderons franchement ce qu'on peut considérer comme un cas de conscience, à savoir le baptême. Doit-on le considérer comme une œuvre de mérite ou comme un acte d'obéissance à la foi?